Bon matin tout le monde, bon matin! Aujourd'hui, c'est une journée excitante parce qu'on commence un nouveau livre. Là, j'aime ça, Jean-Philippe, il l'a même écrit en anglais dans le podcast, dans le pod. Parce que oui, ça reste que le nom du livre en anglais, c'est Atomic Habits. En français, c'est « Un rien peut tout changer ». On dirait ça comme pas le même impact quand on parle de « Hey, si on l'avait gardé, la même affaire, habitude atomique, là. » On dirait que ça donne de l'énergie. Un rien peut tout changer. Oui, on va se rendre à comprendre plus en détail, mais ça reste que oui, on a besoin de comprendre dans le fond qui va être lié tout sur les habitudes, de bâtir les habitudes, où ça peut nous mener. Donc, des fois, oui, d'avoir quelque chose de simple qu'on va faire va amener un grand changement au final. Donc, on va commencer ce livre-là aujourd'hui. On va faire juste l'introduction. Parce que vous allez voir avec Jean-Philippe dans quelques instants, juste avec son histoire de comment il a décidé d'écrire ce livre-là, de où ça l'a parti. Déjà là, Jean-Philippe, il dit de l'écrire, de le préparer. Il dit, je voulais tout dire finalement. Je pense qu'il aurait relu finalement le livre au complet. Ça me donne des frissons de comprendre de où ça l'a parti finalement, ce livre-là. Donc, dans quelques instants, je vous laisse avec Jean-Philippe. Mais juste avant, je veux m'assurer que vous avez déjà partagé le podcast ce matin. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, juste à côté de où vous allez écrire vos commentaires, que vous soyez sur Podbean ou sur Facebook, vous allez pouvoir aller cliquer sur la flèche pour aller partager. Donc, vous allez pouvoir partager sur toutes les différentes plateformes de médias sociaux. Mais vous allez aussi pouvoir aller partager soit par Messenger ou par message texte. Donc, quand vous avez quelqu'un qui veut être sûr qu'il écoute, vous allez pouvoir le partager de cette façon-là. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'il l'écoute aussi. Et aujourd'hui, c'est la journée où on annonce nos gagnants du mois d'avril pour tous nos concours Les Millionnaires des Diamants. Donc, première chose, on veut féliciter notre top 5 des personnes qui ont le plus contribué sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, félicitations dans notre top 5. On a en position numéro 5, Joanne Corbeil. En position numéro 4, on a Dani Chartrand. En position numéro 3, on a Louise Gauthier. En position numéro 2, on a Kendra Siffingasol. Et en position numéro 1, on a Lise Boucher. Donc, félicitations à notre top 5 qui se mérite le cahier de notes Les Millionnaires des Diamants, le nouveau là, que Maria elle aime beaucoup là, parce que là, il a la couverture rigide, il est vraiment beau. Il est vraiment fancy, Les Millionnaires des Diamants. Donc, félicitations à notre top 5. Et parmi tout le monde qui contribue durant le mois, donc que ce soit en publiant sur le groupe, en laissant des commentaires, des réactions, on a fait le tirage pour le mois d'avril. Donc, félicitations à Pauline Bagnoli qui se mérite le sac à accessoires Les Millionnaires des Diamants. Ensuite, on a aussi un tirage parmi tous ceux que quand vous allez placer une commande sur la boutique Les Millionnaires des Diamants, le Shopify. Donc, on a Nathalie Majot qui a gagné le sac à accessoires Les Millionnaires des Diamants pour le mois d'avril. Donc, ça continue. Donc, dès que vous avez placé votre commande, prenez une photo, allez le publier. Quand vous avez reçu votre commande, même affaire, prenez une photo, allez le publier et vous allez être dans le tirage à la fin du mois. Ensuite, au mois d'avril, on a vraiment été gâtés. On a eu plein de nouveaux livres qui sont sortis, Les Millionnaires des Diamants. Donc, ça veut dire que vous avez eu plein d'opportunités de prendre des photos, de taguer Maria Merano, taguer Les Millionnaires des Diamants pour être dans le tirage du sac à accessoires. Notre gagnante du mois d'avril, c'est Sarah Maude Chassé. Donc, félicitations. Et ça continue encore une fois au mois de mai. Donc, quand vous avez reçu votre livre, vous êtes en train de faire un quiz dans le livre de quiz. Prenez le temps de prendre une photo, de publier et vous allez être dans le tirage à la fin du mois. Et finalement, parmi tous ceux qui ont soit se sont joints au groupe durant le mois ou pour ceux qui ont invité des nouvelles personnes sur le groupe, félicitations à notre gagnante. On a Karine Gagnon qui se mérite le sac à accessoires Les Millionnaires des Diamants et ça continue encore une fois tout au long du mois de mai. Donc maintenant, je vous laisse entre les mains de Jean-Philippe pour l'introduction de ce nouveau livre.
Merci Marie-Pierre! Bon matin tout le monde! Donc oui, on start le nouveau livre aujourd'hui avec notre introduction. Et quand on commence un livre comme ça, c'est toujours intéressant de savoir qui est l'auteur. Donc, est-ce que l'auteur, c'est une personne qui est crédible? Donc, comment est-ce qu'il en est arrivé à écrire ce livre-là? Et j'ai adoré parce qu'il a pris le temps de raconter dans l'introduction de son histoire, puis on comprend de où viennent ses bases et de où viennent son expérience. Ce que vous devez savoir, c'est que Atomic Habit, lorsque vous faites des recherches sur le développement personnel, lorsque vous faites des recherches sur le leadership, vous faites des recherches sur comment en fait s'améliorer en tant que personne, Atomic Habit est toujours, toujours, toujours un des livres qui fait partie des tops. Donc, dans les palmarès. Donc, on est vraiment content de pouvoir commencer à le lire et le couvrir avec vous autres aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est où est-ce que notre auteur, James Clear, en fait, de où est-ce qu'il provient? Et l'origine du book, mon Dieu, je vais parler en franglais aujourd'hui, l'origine du livre remonte jusqu'à son école secondaire. Donc, c'est quand même, il y a de cela plusieurs années. Il a terminé, en fait, le secondaire en 2002. Donc, ça remonte jusqu'à cette époque-là. Donc, la dernière journée, donc à son école secondaire, où est-ce qu'il allait être, en fait, là, un graduate, donc il allait graduer, il s'est fait frapper par un bâton de baseball. Donc, un de ses amis, donc lui était un des joueurs, un de ses amis, le bâton de baseball a glissé de ses mains. Et qu'est-ce que le bâton a fait? C'est qu'il est arrivé en plein au centre de son visage, sur son nez et entre les deux yeux. Donc, je vous laisse imaginer un bâton de baseball en bois massif, le coup que ça peut avoir donné. Donc, il s'est fait casser le nez. Et il y a comme eu une vague, tu sais, dans son cerveau de chaleur qui lui a fait, en fait, ressentir une douleur énorme. Donc, il y avait le nez brisé, il y avait plusieurs fractures au visage, et il y avait même, en fait, les cavités, donc les cavités pour ses yeux qui étaient défectueuses, qui ont fait en sorte que ça l'a même apporté, en fait, un déplacement. Donc, il a été immédiatement transporté à l'infirmerie de l'école, où est-ce qu'il n'a même pas été capable de répondre à de simples questions. Donc, vous le savez, quand quelqu'un vit un traumatisme ou quelque chose comme ça, on lui pose des questions pour savoir si le cerveau est affecté. Ils ont demandé « On est en quelle année? » Il a dit « On est en 1998. » Il était en 2002. Il a dit « Qui est le président des États-Unis? » Il a répondu « Bill Clinton, c'était George W. Bush. » Et ça lui a pris plus d'une dizaine de secondes à être capable de se souvenir du nom de sa mère. Donc, immédiatement, ils ont vu que c'était du côté des traumas, donc que son cerveau avait été affecté. Il a été transporté, donc, à l'hôpital local, où est-ce que, dans le fond, avant d'embarquer dans l'ambulance, il s'est évanoui. Arrivé, en fait, à l'hôpital, son corps a complètement fait un shutdown, OK? Il a arrêté de respirer, il a eu sa première crise d'épilepsie, il a manqué d'oxygène. Ils ont été obligés, donc, de l'envoyer par hélicoptère à l'hôpital général, donc, de la région. Donc, quand il est arrivé, il y a plus de 20 docteurs dans le département des traumas et de l'urgence, en fait, qui l'ont pris en charge. Il a fait à répétition, donc, des crises post-traumatiques. Et ils ont même été obligés de le mettre dans un coma et de le mettre sur ventilateur parce qu'il craignait, en fait, pour sa vie. Il a repris conscience quelques jours plus tard. Il a perdu, en fait, l'utilisation de son nez, donc de l'odorat. Et ils ont même remarqué que lorsqu'il essayait de respirer, ça exerçait une pression énorme, en fait, sur ses cavités, donc de ses yeux, qui avait même, en fait, déplacé. Donc, il a eu même une chirurgie pour l'aider, en fait, à replacer le tout. Puis, ça lui a pris plus de 8 mois, revenir, en fait, à une normale avec des traitements et de la thérapie physique. Donc, de comprendre cet événement-là qui lui est arrivé à la fin de son secondaire, vous allez voir, pour les prochaines choses que je vais vous partager de son histoire, vous allez comprendre comment pour lui ça a été un moment marquant. Parce que lui, il était déterminé. Il avait quand même un bon mindset. Il était déterminé à dire, c'est pas vrai que ces blessures-là vont faire en sorte que je serai plus rien capable de faire dans ma vie. Malgré un bon mindset, il est arrivé des moments où est-ce qu'il s'est senti, en fait, en dépression et où est-ce qu'il se sentait, en fait, comme surchargé, donc d'émotions et surchargé de choses à faire. Donc, pour lui, ce qui était important, c'était de revenir sur le terrain de baseball parce qu'il était un athlète. Donc, comment vous pensez de gens, après un événement comme ça, auraient rebuté le terrain de baseball de peur qu'un autre événement de ce style-là arrive? Mais lui, il s'était dit non, moi, je veux revenir parce que je veux en fait devenir être qualifié puis jouer dans l'équipe nationale. Malheureusement, il a dû être retranché. Ça l'a affecté au plus haut point. Et dans le fond, qu'est-ce que ça l'a amené à comprendre? C'est « OK, moi j'ai une ténacité et qu'est-ce que je veux? » C'est en fait être un grand joueur de baseball un jour. Donc lui, son avantage, c'est qu'il avait un bon mindset. Il se disait « Si en fait il y a un endroit où est-ce que je peux m'améliorer, la seule personne qui est responsable de cette amélioration-là, c'est moi. » Donc, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon avenir, je dois le prendre en main. Et il a réalisé que ce mindset-là, ce pouvoir-là, OK, il l'a réalisé lorsqu'il s'est rendu à l'université. Donc, à l'université, il est devenu un athlète. Mais c'est pas en au départ en faisant du sport à tous les jours, OK? Il est devenu un athlète parce qu'il a décidé de prendre en charge sa vie dans tous ses aspects, son aspect personnel, professionnel et même académique. Donc, il s'est mis à faire des petits choix. Donc, au lieu de jouer à des jeux vidéo jusqu'à 2-3 heures du matin comme ses amis, puis qu'il n'était pas capable de se lever le lendemain matin puis d'aller au cours de 8 heures, ça nous est tous déjà arrivé, OK? Donc, lui s'est dit, ben regarde, moi, je vais développer de bonnes habitudes de sommeil. Au lieu de laisser sa chambre, parce que eux autres à l'université aux États-Unis, c'est beaucoup, en fait, là, ils habitent directement dans des résidences et tout ça. Au lieu d'avoir une chambre qui est désordonnée, il s'est assuré d'avoir toujours une chambre propre et en ordre. Et ce qu'il a remarqué, c'est que ces petites décisions-là, dans son quotidien, d'avoir un environnement où est-ce que ça le met en position de succès, ça a eu des répercussions sur ses résultats académiques, où est-ce que tout au long de son université, il n'y a eu que des A. Donc, il s'est maintenu au-dessus de la moyenne. Bien évidemment, il a intégré des changements physiques. Il s'est mis à lever des poids et haltères petit peu par petit peu, OK? C'est ce qui lui a permis, avec toutes ces habitudes-là qu'il est en train de développer, de devenir un des membres de l'équipe et de faire partie de l'équipe, en fait, des lanceurs de balles de baseball. Il est devenu capitaine de l'équipe 2 ans plus tard et il a même été sélectionné pour la revue ESPN. Donc, ESPN, si vous recherchez, c'est une grande revue, donc américaine. Il y a seulement 30 personnes par année qui sont sélectionnées pour la revue et il en a fait partie. Il a même en fait reçu, il a brisé 8 records dans 8 catégories différentes à son école et il a reçu à la fin de son parcours la plus haute distinction, c'est-à-dire la médaille du président. Donc, ce qu'il était en train de réaliser, c'est que en ne se laissant pas abattre par les événements et en faisant de tout petits changements, il a réalisé qu'il était en train d'atteindre son plein potentiel. Donc, les changements qui semblaient petits et non importants au départ, avec l'effet cumulé, se sont mis à s'additionner et ont donné des résultats tout simplement incroyables. Mais la raison pour laquelle ça l'a donné des résultats incroyables, c'est qu'il les a gardés pendant des années, pendant des jours consécutifs, des mois consécutifs, des années consécutives. Donc, ce qui en est venu à la conclusion, James Clear, c'est que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos habitudes. Si tu n'es pas heureux de la vie que tu as en ce moment, c'est parce qu'il y a des habitudes en place qui te mènent à avoir la vie pour laquelle tu n'es pas heureuse en ce moment. C'est uniquement en remplaçant et en ajoutant des nouvelles habitudes que tu vas pouvoir changer la trajectoire, donc, de ta vie. Donc, pour lui, James Clear, il s'est jamais considéré comme quelqu'un d'extraordinaire. Il dit « Je suis quelqu'un d'ordinaire qui a décidé de faire des choix et de commencer maintenant. » À Top Aware, nous autres, on a en fait la citation ou l'énoncé qui dit « Think big ». Start small, but begin now. Donc, pense grand, rêve grand, commence petit, mais débute maintenant. Donc, lui, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et basé sur ce principe-là, de faire des choix et de les mettre en application, c'est ce qui l'a amené à écrire le livre qu'on va commencer à couvrir avec vous autres aujourd'hui. Donc, ça a débuté cette aventure-là, on peut dire, en 2012. Mais là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que de 2002 à 2012, c'est ses années, en fait, d'université et ses années, en fait, ses premières années de travail. En 2012, il a décidé d'ouvrir un site web. Et sur ce site web-là, il a commencé à publier des articles reliés donc au développement de bonnes habitudes et sur le développement personnel et des stratégies à adopter. Ça a commencé de la manière suivante. Chaque lundi, il publiait un article sur son site web. Et à force d'écrire, il a découvert que finalement, après quelques mois, il était capable d'écrire beaucoup plus rapidement et de couvrir beaucoup plus de sujets. Il a augmenté à 2 publications, donc 2 articles écrits par semaine. Une à tous les lundis et une à tous les jeudis maintenant. Sur son site web, ça lui a permis donc de récolter des adresses courriel pour bâtir une clientèle et après quelques mois, il avait déjà une liste de plus de 1000 courriels différents. Donc, c'est-à-dire 1000 personnes qui recevaient le lundi et le jeudi ses articles sur les habitudes. Après seulement 2 ans, sa liste de courriels était rendue à plus de 30 000 emails. En 2014, une autre année plus tard, sa liste venait de passer à 100 000 emails récoltés. Donc, 100 000 personnes qui recevaient 2 fois par semaine un courriel sur les habitudes. Donc, cette petite habitude-là, qui a pris essence depuis la fin de son secondaire avec le traumatisme qu'il a eu, de changer de petites habitudes, toutes petites à tous les jours, ça l'a amené à être reconnu et à s'établir comme un des experts sur le sujet du développement des habitudes. Une année plus tard, 2015, il était rendu à 200 000 emails à qui il envoyait des courriels 2 fois par semaine. Et c'est à ce moment-là que la maison d'édition a décidé de le signer pour qu'il puisse écrire son livre sur les habitudes. Il est devenu un conférencier, il est devenu une référence pour plusieurs conférences et rencontres. En 2017, il a formé l'Académie des habitudes, The Habit Academy. Et en 2018, donc là on voit 6 ans plus tard, à faire 2 articles par semaine, à, oui, là, signer son livre et terminer l'écriture de son livre. Et en 2018, il avait 500 000 adresses courriels. Donc, ce qu'on constate, c'est que oui, les petites habitudes, regardez comment ça peut être exponentiel en l'espace de, puis on dit quelques années, on fait quand même, mais il y a quand même 365 jours. Ben, ce que vous allez voir, c'est qu'on va décortiquer ça dans les prochains podcasts pour nous aider à comprendre comment cet impact-là et comment ces petites habitudes-là, on peut les intégrer pour avoir un impact. Donc, comment que le livre va nous servir? Première des choses, ce qui est merveilleux, c'est que ce livre-là n'est pas uniquement basé sur de la théorie, il est basé en fait sur une expérience. Donc, c'est basé en fait sur des habitudes où est-ce qu'il a été capable de revenir donc d'accidents, son développement en tant qu'athlète, en tant que performeur et avoir des hautes performances à l'école, en tant qu'écrivain et en tant que personne en succès qui a développé une business. Donc, c'est vraiment basé sur son expérience et c'est ce qui lui a amené à réaliser son plein potentiel. Puis c'est ce qu'on veut, nous aussi. On veut pouvoir réaliser notre plein potentiel. Donc, on va pouvoir s'inspirer donc de son histoire. Deuxième des raisons pourquoi ça va nous être utile, c'est aussi une synthèse des meilleures idées des grands penseurs aujourd'hui. Donc, son expérience personnelle, il a été capable d'aller la connecter avec ce qui était écrit au niveau de la science et être capable, en fait, de supporter le tout et d'écrire un guide, donc un manuel d'opération. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça sera pas uniquement des belles paroles et des grandes théories. Ça va vraiment faire en sorte que ça va être des idées qu'on va pouvoir mettre en action et en place dans notre vie de tous les jours. La troisième raison, c'est qu'il a vraiment structuré son livre en 8 grands sujets. Donc, où est-ce qu'il va parler de ce qu'il appelle les 4 étapes pour modeler les habitudes? Puis là, j'ai oublié de les traduire en français. Cue, craving, response, reward. Q. What is Q en français? C'est un Q? C'est un Q? What is a Q? C'est un Q. Exactement. Fait que craving, c'est le désir. Response, c'est la réponse. Et reward, c'est la forme de reconnaissance. Donc, c'est ce qui va nous mener à aussi comprendre quelles sont les 4 lois qui établissent les changements de comportement. Donc, qu'est-ce qui est une des choses intéressantes, comme on disait, c'est basé sur son expérience et c'est relié aux études, donc ce qui vient contribuer à la force du livre. Et c'est basé, en fait, sur ce qu'il appelle Skinner. Donc, Skinner, c'est un psychologue. Dans les années 1930, c'est lui qui a développé, en fait, ce qu'il appelle les comportements de base. Juste pour vous donner un visuel de qu'est-ce que c'est qu'on disait que quand un stimuli, donc tu as quelque chose qui arrive dans ton environnement, tu vas réagir d'une telle manière. Donc, c'est lui qui a fait les expériences de, exemple, une souris appuie sur un bouton, elle reçoit, en fait, de la nourriture. Fait qu'elle va continuer à peser sur le bouton pour avoir une reconnaissance. Mais la souris appuie sur le bouton, elle reçoit un choc électrique. Donc, finalement, à force de peser sur le bouton, elle va réaliser qu'il faut qu'elle arrête parce que elle reçoit un stimuli qui est négatif par la suite. Donc, c'est lui qui a découvert ces principes-là. Toutefois, ce que James Clear a remarqué, c'est que cette théorie-là de 1930 de Skinners était uniquement basée sur les stimuli externes, basée sur l'environnement. Alors que l'être humain est probablement l'animal le plus complexe qui existe sur la Terre, nous, l'être humain, en fait, on a toute cette notion-là d'émotion, de croyance, de sentiments, de pensées, qui sont ce qu'on appelle des stimuli internes. Ce qui fait en sorte que des fois, l'être humain ne réagit pas de manière logique. Donc, lui, qu'il a décidé de faire, c'est d'approfondir ses connaissances pour écrire ce livre-là et de comprendre comment on peut, en tant qu'être humain, gérer les stimuli externes, donc gérer notre environnement qui nous influence, mais comprendre comment est-ce que notre passé a formé la personne que l'on est aujourd'hui et nos pensées, et d'exercer un contrôle sur les stimuli internes dans le but de mettre en place des nouvelles habitudes. Donc, ce livre-là va nous aider dans tous les endroits de notre vie. C'est un système d'amélioration pour nous aider au niveau de notre business, de notre famille, de notre vie, de notre santé, de l'argent et de la productivité. Donc, ça va couvrir large pour nous aider à développer ces habitudes-là. Mais pour voir si vous êtes prêts, dès la semaine prochaine à commencer, Marie-Pierre a pour nous, en fait, un quiz à nous faire ce matin pour découvrir, OK, est-ce que vous êtes prêts à changer vos habitudes?
Merci Jean-Philippe. Donc oui, on va partir le quiz ce matin ensemble. Donc, vous allez voir, c'est simple, c'est 10 questions que vous allez pouvoir répondre A, B, C ou D pour chacune des questions pour voir justement à quel point vous êtes prêts à partir avec ce nouveau livre-là par rapport aux habitudes. Donc, ça va être une façon de voir comment, déjà en ce moment, vous réagissez quand on parle de développer des nouvelles habitudes, de faire attention aux mauvaises habitudes. Donc, on veut connaître finalement comment, là, en ce moment, on va voir ça pour, après ça, être capable de le développer puis être prêt, finalement, à comprendre les principes qu'on va couvrir dans ce nouveau livre-là. Donc, on part tout de suite. Évidemment, quand on répond à ces questions-là, l'objectif, c'est si vous voulez répondre dans les commentaires, c'est le fun, mais à la base, tu veux répondre pour toi de façon honnête. Donc, tu peux l'écrire aussi sur un bout de papier, c'est parfait. Donc, pour t'assurer de comprendre de où tu vas partir. Donc, on part ça, question numéro 1. Donc, à quelle fréquence est-ce que vous réfléchissez à vos routines et à vos habitudes quotidiennes? A, à tous les jours. B, plusieurs fois par semaine. C, à l'occasion. Ou D, rarement ou jamais. Question numéro 2. Donc, dans quelle mesure que vos objectifs que vous êtes fixés sont spécifiques? A, c'est très spécifique et limité dans le temps. B, c'est assez spécifique. C, j'ai une idée vague. Ou D, je me fixe pas vraiment d'objectifs. Question numéro 3. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes constant dans le maintien de vos routines? A, je m'en tiens à mes routines sans faute. B, je vais être généralement constant, mais ça va m'arriver de l'ignorer. C, je lutte toujours avec la constance. Ou D, j'ai pas ça vraiment des routines. Question numéro 4. Comment est-ce que vous réagissez au feedback, aux commentaires quand on parle de votre progrès? A, je vais aller le rechercher activement pour les utiliser pour m'améliorer. B, je vais les écouter, mais pas nécessairement toujours l'utiliser. C, je vais rarement aller chercher des commentaires. Ou D, je vais tout simplement éviter le feedback et les commentaires. Question numéro 5. Est-ce que votre environnement appuie vos objectifs? A, entièrement, c'est optimisé pour réussir. B, c'est un peu favorable. C, pas trop favorable. Ou D, on ne soutient vraiment pas mes objectifs. Question numéro 6. Comment est-ce que vous gérez les grandes tâches? A, je vais toujours les diviser en petites étapes pour être capable de les gérer. B, je vais parfois les décomposer. C, je vais rarement parvenir à simplifier les tâches. Ou D, je vais me sentir tout simplement dépassée par les événements quand il y a des grandes tâches à faire. Question numéro 7. Est-ce que vous êtes conscient de qu'est-ce qui déclenche vos mauvaises habitudes? A, je suis très conscient puis je le gère activement. B, je suis un peu conscient mais pas toujours en train de les gérer efficacement. C, je suis pas vraiment conscient de ça. Ou D, je suis juste pas au courant qu'il y a des déclencheurs. Question numéro 8. Comment est-ce que vous récompensez les progrès dans vos habitudes? A. Je vais avoir des récompenses régulières pour des petits succès. B. À l'occasion, je vais me récompenser. C. Je vais penser rarement aux récompenses. Ou D. Je récompense juste pas. Question numéro 9. Quel genre de soutien dans votre environnement, votre soutien social, est-ce que vous avez pour changer vos habitudes? A. J'ai un système qui est fort et encourageant. B. J'ai un système qui est disponible, mais pas toujours un bon support. C. J'ai un soutien limité. Ou D. J'ai aucun soutien. Et finalement, la dernière question, question numéro 10. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes flexible dans l'ajustement de vos habitudes? A. Je suis une personne ouverte au changement et je vais m'adapter. B. Je vais souvent m'adapter. C. Pas trop flexible. Ou D. Plutôt résistant quand on parle de changement. Donc, en ayant répondu aux 10 questions, vous allez pouvoir voir combien de A, combien de B, combien de C, combien de D vous avez eu. Si vous avez eu une majorité de A, vous êtes déjà bien préparé à intégrer et à bénéficier des stratégies qu'on va voir dans le livre Un rien peut tout changer. Les habitudes atomiques. Donc, vous avez déjà une approche proactive et réfléchie qui va vous aider à maximiser les enseignements qu'on va avoir dans ce livre-là. Si vous avez eu principalement des B, vous avez déjà une bonne base, mais vous allez peut-être avoir quelques difficultés à assumer finalement les enseignements qu'on va avoir dans ce livre-là. Donc, de se concentrer au départ sur augmenter votre constance et de la recherche de feedback va vous améliorer à être prêt à mettre en pratique ces principes-là. Si vous avez eu principalement des C, donc vous allez faire face à certains défis quand on va commencer à parler des différents principes du livre, parce qu'au départ, il va falloir que vous envisagez plutôt de vous concentrer sur établir des objectifs clairs pour finalement améliorer votre environnement, pour avoir le soutien de ces habitudes-là qu'on va apprendre au fur et à mesure du livre. Et si vous avez eu principalement des D, vous allez trouver ça difficile de commencer les pratiques qu'on va voir dans le livre. Donc, on va commencer par quelque chose de simple, comme faire un changement facile à faire, de renforcer progressivement finalement votre capacité de routine va être la meilleure stratégie qui va être bénéfique pour vous pour commencer. Donc là, peu importe où vous êtes en ce moment, oui, on embarque dans le livre à partir de la semaine prochaine et vous allez pouvoir comprendre comment développer ces bonnes habitudes-là. Mais trois points clés qu'on veut se souvenir quand on veut construire des nouvelles bonnes habitudes. Un, on va rendre ça évident. Donc, rendez-le évident. Ça veut dire créer ton environnement pour pas te poser de questions puis de t'assurer que les habitudes que tu veux cultiver, ils vont être facilement gérables. Numéro 2, on va le rendre attrayant. Donc, rendez-le attrayant, ça veut dire si tu as une tâche qui est difficile, ben mixe-le avec quelque chose qui va t'amener de la motivation, quelque chose que tu aimes faire aussi. Et numéro 3, on va le rendre facile. Donc, on va simplifier l'initiation de ces bonnes habitudes-là à un niveau qui nécessite un minimum d'effort pour commencer. Donc, on va garder ça en tête pour être prêt à mettre ces nouvelles habitudes, les bonnes habitudes qui vont nous amener vers le succès. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. On continue avec le livre Good to Great demain matin avec Maria et Mélanie. Donc, bonne journée tout le monde! Bye!